Pétrole, anatomie d'une malédiction.
Alors que la guerre fait rage en Iran, le monde assiste une fois de plus à la puissance du pétrole. Le blocage du détroit d'Ormuz fait vaciller les marchés, ravive le spectre d'une crise énergétique globale et étale nos dépendances. L'or noir n'est pas qu'une matière première, c'est un levier de domination, un moteur de guerre et un lourd fardeau pour la planète.
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec Mathieu Ozano, l'auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole.
Épisode 1, 1859, et le pétrole jaillit.
Ils ont trouvé du pétrole. Sam, le fils de William Smith, envoyé par son père vers une ferme voisine pour annoncer la grande nouvelle le 28 août 1859. Bonjour Mathieu Ozano.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de converser, de dialoguer sur cette denrée précieuse, j'allais dire rare, pas tant que ça, mais précieuse, ça oui, qu'est le pétrole, surtout dans le contexte géopolitique que l'on vit aujourd'hui. Vous avez été, dans une vie antérieure, journaliste. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous aviez publié ce très grand livre d'histoire, Or Noir, la grande histoire du pétrole, aux éditions de La Découverte, qui est vraiment, encore aujourd'hui, un livre très éclairant et assez unique en son genre sur le sujet. Vous avez ensuite dirigé pendant 10 ans le Shift Project aux côtés de Jean-Marc Jancovici. Donc vous avez une casquette à la fois de journaliste, d'expert, de militant aussi de la transition énergétique. Il ne faut pas le cacher, ça fait partie de votre identité. Et on va ensemble raconter cette histoire de l'or noir, du pétrole, avec cette première phrase et cette première date en 1859. Ils ont trouvé du pétrole. C'est une date presque emblématique du début de l'aventure pétrolière. On est en Pennsylvanie, à Titusville. Et enfin, le pétrole jaillit. Pouvez-vous me dire ce qui se passe précisément à ce moment-là ?
1859, c'est le début de la première ruée vers l'or noir. C'est pas vraiment la première découverte de pétrole de l'ère moderne. Après la révolution industrielle, il y a des exploitations de pétrole près de Bakou. Il y en a en France. Si on remonte vraiment l'histoire, en fait, le bitume est exploité depuis des temps immémoriels. Ce qui permet de cimenter la tour de Babel, c'est du bitume de Mésopotamie. Marco Polo, quand il est en chemin vers la Chine, il s'arrête près de Bakou, au bord de la mer Caspienne, et il voit des chameaux chargés du bitume qu'on utilise comme onguent pour imperméabiliser des choses, notamment des canaux d'irrigation. Depuis, à l'époque de Babylone, on utilisait le bitume pour avoir des canaux imperméables. Mais 1859, c'est le premier puits aux États-Unis, et aux États-Unis va se déclencher à ce moment-là une ruée vers l'or noir. Très très vite, après ce premier forage, vous avez, comme on voit dans Tintin au pays de l'or noir, une forêt de derricks qui va pousser, et cette compréhension très très rapide que vous avez avec le pétrole une source incroyable de services rendus, d'abord comme source de lumière abondante, puis comme lubrifiant, et enfin seulement comme source d'énergie.
Mais Edwin Drake, celui qui est le propriétaire de ce champ, qui va donner du pétrole, c'est quoi son intuition ? Il sait que le pétrole servira à quoi ? Est-ce qu'il est omniscient ? Est-ce qu'il se dit, là il y a quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un combustible extraordinaire par exemple ? C'est quoi son moteur à lui ?
Non, il a vraiment pas d'intuition puisqu'en fait il a des prédécesseurs. Dans les années qui précèdent, y compris dans cette région, il y a un certain nombre de puits de sel qui donnent en coproduit du bitume ou du pétrole, dont on se sert dès les années 1840 comme pétrole lampant. C'est simplement qu'il est le bonhomme au bon moment, c'est-à-dire qu'on est à la veille de la guerre de sécession, on est au début de l'essor industriel des États-Unis, et en fait, le fait qu'on ait à ce moment-là la compréhension que le pétrole peut être exploité pour le pétrole, non pas comme coproduit du sel ou d'autres choses, et comme source de lumière abondante, d'abord, ça va déclencher ce boom de l'or noir. Ce qui est intéressant, c'est que dans les premières années de l'essor du pétrole, personne n'a de génie, en fait. Il n'y a pas de Marie Curie, il n'y a pas de Thomas Edison. Rockefeller, donc, qui va devenir très rapidement la première fortune des États-Unis et dont la fortune va structurer le capitalisme américain, s'enorgueillit pendant des années et des années de ne pas avoir un seul chimiste parmi ses employés. Les techniques qui sont utilisées pour raffiner le pétrole, ce sont à nouveau des techniques antédiluviennes qu'on utilisait pour les graisses animales. Donc le premier raffineur, Rockefeller est un raffineur, c'est pas un producteur de pétrole. Les premières raffineries, on utilise tout simplement les techniques qu'on utilisait pour le suif, pour toutes sortes de raffinages à l'alambic, à l'ancienne, pour des graisses animales ou des graisses végétales.
Et à quel moment alors le pétrole devient ce que l'on connaît aujourd'hui, notamment cette source d'énergie ? Faut-il attendre le XXe siècle pour cela ?
Ouais, c'est vraiment le tournant du XXe siècle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise le moteur à explosion, le moteur à combustion interne plus exactement, d'évidence, le pétrole et il y a d'autres sources. Hein, on a su faire marcher des moteurs à l'électricité. Oui. On a fait les moteurs à combustion interne, les premiers. Ils sont inventés par un Belge, mais ils utilisent du gaz de ville, c'est-à-dire un coproduit de l'exploitation de la houille, et c'est beaucoup moins efficace. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pétrole cumule une quantité incroyable de propriétés physiques en soi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de miracle technologique. On utilise des techniques de raffinage, d'exploitation de l'énergie qu'on connaît depuis des décennies, parfois depuis des siècles. Mais c'est vraiment une conjonction à la fois d'essor industriel et de découverte d'une source très très abondante et très facile à exploiter, qu'est le pétrole, qui fait que voilà, tout ça, ça coagule, je dirais, au moment où prennent leur essor les premiers grands constructeurs automobiles, à commencer par General Motors et Ford.
Là, on était beaucoup aux États-Unis. Vous évoquiez ces dairies qui couvrent le pays, alors pas l'ensemble du pays, mais les pays où il y a des gisements. Si on va...
Vraiment la Pennsylvanie, quoi.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un pétrole qui est épuisé aujourd'hui. Ce pétrole conventionnel, oui, c'est l'une des sources historiques de pétrole qui est complètement à sec aujourd'hui. Et maintenant, on exploite le pétrole de schiste. Donc, sur la même zone, en Pennsylvanie, on va...
Un peu plus profondément,
ouais. En fait, on va dans ce qu'on appelle la roche-mère, c'est-à-dire la roche qui génère, qui fait suinter, en quelque sorte, le pétrole, et qui est bloqué dans des roches-réservoirs, en général des dômes de sel, c'est pour ça qu'il y a son coproduit. Et il y avait un géologue qui m'avait expliqué, en quelque sorte, qu'on était un peu comme des rats qui avaient mangé les cornflakes et qui s'attaquaient à la boîte de cornflakes.
D'accord.
C'est un peu ça.
Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de cornflakes ailleurs dans le monde.
Bien sûr.
Parce que 1901, je crois que c'est l'Iran. 1900, en tout cas tout le début du XXe siècle, c'est là où le pétrole commence à jaillir un peu partout, ailleurs en tout cas qu'aux États-Unis. Racontez-nous un peu cette ruée vers l'or noir qui dépasse pour le coup les États-Unis.
Ailleurs dans le monde, ouais. Alors, je disais tout à l'heure que le puits de Drake en 1859 qui marque pour les Américains.
Oui.
Le début, l'an 1 du pétrole, en fait, je faisais tout à l'heure allusion à Bakou, à Marco Polo. En fait, les Soviétiques, pendant la guerre froide, revendiquaient des puits antérieurs au puits de Drake. Et effectivement, il semblerait que l'exploitation ait commencé au bord de la mer Caspienne, du côté de Bakou, avant le puits de Drake, dans un endroit d'ailleurs où voilà, le méthane suinte, et vous avez ce qu'on appelle l'un des Temple du Feu. Les Temples du Feu, c'est des lieux de culte zoroastrien. Donc le zoroastrisme, c'est peut-être l'une des deux plus vieilles religions monothéistes. Et on regarde le feu comme la justice des âmes. Donc, moi, c'est une image qui me touche beaucoup parce que Bakou, qui va devenir le deuxième grand centre avec les États-Unis de production d'énergie, à l'un de ces temples du feu, et quelque part, je vois, moi, l'abondance énergétique qui est offerte comme ça, naturellement, par le pétrole, comme une épreuve du feu, on pourrait dire, qui va se jouer jusqu'à aujourd'hui, à travers des moments fatidiques, des guerres aussi. Et il y aura, je fais un fast-forward, j'avance rapidement, le pétrole de Bakou va devenir l'enjeu clé de la Seconde Guerre mondiale. Stalingrad, le but de Stalingrad, c'est Bakou. Et vous parliez de la Mésopotamie, de l'Iran, de l'Irak. À la fin de la Première Guerre mondiale, le grand butin que vont tenter de se partager les Français et les Anglais, c'est le pétrole de Mésopotamie.
Oui, donc le pétrole et la guerre, c'est une histoire ancienne. Je reviens juste un instant sur cette belle idée de l'épreuve du feu et du culte du pétrole. Y a-t-il déjà à l'époque un culte de cette matière première que l'on découvre et dont on découvre les propriétés extraordinaires très vite ?
C'est pas un culte de la matière en elle-même, c'est le culte du feu naturel. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que si on reste à peu près sur cette période-là de l'explosion de la société industrielle au tournant du début du XXe siècle, c'est incroyable de voir toutes les qualités que cumule le pétrole. Mmh. Et il y a une espèce de fascination. Rockefeller a eu des mots presque messianiques pour dire, voilà, cette chose est un don de Dieu. C'est la première source de lumière abondante. Avant même que ça soit une source d'énergie, il faut le rappeler,
oui.
C'est la première source
de lumière. C'est une source de lumière? Il faut expliquer tout simplement s'il y a des enfants qui écoutent.
C'est l'ampe à pétrole.
Ouais.
Les lampes à pétrole, avant ça...
C'est le combustible.
Oui, oui.
Ouais.
On brûle, ça émet une lumière qui est très pure, qui fume peu. Et jusqu'à présent, disposer de lumière abondante, c'était le privilège des rois et des aristocrates.
Mmh.
On utilisait la meilleure source de lumière qu'on utilisait, c'était le spermacity. Donc c'est l'huile du cerveau des cachalots, c'est l'huile qu'on va chercher dans Moby Dick.
Mmh.
C'était la plus pure, et vous imaginez bien, on appelait ça l'huile des rois, précisément parce que c'était très rare.
Ouais, très difficile à trouver.
Très difficile à trouver. C'était des campagnes de baleiniers de plusieurs années pour ramener quelques centaines de litres de cette matière qui était bien plus chère. C'est ça, c'est l'abondance en fait, le pétrole.
Et là, elle est sous nos pieds.
Elle est sous nos pieds, et le puits de Drake, en un jour, il produisait l'équivalent de plusieurs années de campagne d'un baleinier.
Ouais.
C'est ça. Donc c'est la lumière. Puis, encore à nouveau, avant que ça soit une source d'énergie, c'est un lubrifiant, ça aussi, et un solvant. Ça, c'est très intéressant. On peut prendre l'exemple du canal de Panama, le percement du canal de Panama. L'énergie, c'est l'énergie du charbon. On utilise beaucoup de machines excavatrices qui fonctionnent au charbon. Mais c'est des machines énormes, très lourdes, et qui ont besoin de sources, c'est à nouveau abondantes, de lubrification et de solvants. Et ça, jusqu'à présent, on utilisait de l'huile végétale, de l'huile de phoque, de l'huile de baleine, etc. Et là, à nouveau, avec le pétrole, exploité massivement et qui remonte de sa propre pression, on a cette image des dériques qui explosent comme ça, vous avez Mère Nature, et c'est ça...
Un cadeau de Dieu.
Ouais, et c'est ça que retient quelqu'un comme Rockefeller.
Y a-t-il déjà, parce que c'est aussi le sous-titre de notre conversation, Anatomie d'une malédiction, chez certains, l'idée que c'est une malédiction que le pétrole... Alors peut-être les producteurs d'anciennes lubrifiants ou d'anciennes lampes qui utilisaient autre chose que du pétrole, mais est-ce qu'il y a déjà l'idée de la malédiction? Attention, il y a là quelque chose de dangereux.
Avant l'ère industrielle, donc avant cette période de 1859, il y a une idée d'hubris qui est présente. J'avais retrouvé un poème satirique d'un cadre, d'un responsable dans l'empire abbasside, je crois, donc l'un des premiers empires arabes, qui se moquait de l'hubris, de la fierté excessive de quelqu'un qui avait été chargé par le calife d'exploiter les mines de bitume. Et il lui disait, mais tu te prends pour qui cette matière gluante, nauséabonde, etc. Donc il y avait ça, on peut dire, d'ores et déjà. Mais cette idée de malédiction du pétrole, elle devient vraiment apparente à partir du moment où on l'exploite, le pétrole, comme source d'énergie, pour faire fonctionner des machines. Et là...
Donc là, c'est quand même début... On est encore dans la même période qu'on évoque ensemble, c'est début 20e.
C'est début 20e. Alors, je crois que j'ai fait allusion tout à l'heure à Tintin au Pays de l'Or Noir.
Ouais.
Alors, il y a un autre Tintin qui parle de ça, qui parle de l'une, peut-être la première guerre oubliée du pétrole, qui est la guerre du Chaco, au début des années 30, qui est une guerre pour chercher du pétrole à un endroit où on ne l'a jamais trouvé. Et dans l'oreille, je crois que c'est dans l'oreille cassée, on raconte cette guerre qui a été aussi... c'est Pablo Neruda qui en a parlé dans un poème, en racontant des guerres par proxy entre des pays qui sont manipulés par des compagnies pétrolières derrière.
Mmh.
Et quelque part, la guerre du Chaco, c'est une guerre entre plusieurs des grandes compagnies anglo-saxonnes qui émergent à ce moment-là.
Et bien précisément, ces compagnies pétrolières, elles vont se partager le monde pétrolier en 1928 dans un accord maintenu très longtemps secret. Ça sera l'objet de notre prochain épisode. Pétrole, anatomie d'une malédiction est un podcast original de France Inter.